Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h47, les grands débats ce matin. Thierry Garrier, Philippe Bilger et Frédéric Déby, directeur général de l'IFOP et auteur de La Fracture, est avec nous.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Patrick, bonjour Cécile.
Avec une dernière enquête ce matin sur une circonscription qui est intéressante, hein, c'est la majorité face à ANUPS, c'est dans l'Essonne, hein, Frédéric.
Tout à fait, c'est la sixième circonscription de l'Essonne où une ministre était en danger au premier tour face à Jérôme Guedj, un socialiste et candidat pour la NUPES. Et le rapport de force IFOP fiduciel pour Sudario donne un léger avantage, mais un avantage pour Jérôme Guedj. Hein, ce n'est pas anodin, une ministre qui chute lors des élections législatives, ce n'est pas arrivé depuis 2007. C'était Alain Juppé qui avait été battu par Michel Delaunay, une socialiste en Gironde à Bordeaux. 51-49, c'est serré. Ce n'est pas dans la marge d'erreur, donc nous assumons un avantage pour Jérôme Guedj. Ce qui est très notable, Patrick, c'est à quel point ces électorats sont différents, antagonistes. Les jeunes votent massivement NUPES, Jérôme Guedj, les personnes âgées. Et là, ça peut être un avantage pour Amélie de Montchalin s'il y a une plus forte mobilisation de l'électorat âgé pour la majorité présidentielle. Les catégories populaires votent pour NUPES, les retraités pour Amélie de Montchalin. Là où il y a une surprise, ça montre à quel point la NUPES a réussi à percer dans les catégories sociales supérieures, c'est quasiment du 50-50, avantage 54-46 pour Jérôme Guedj. En tout cas, ça sera une des circonscriptions que nous estimerons IFOP fiduciel pour Sud Radio TF1 et LCI dimanche, où nous pourrons dès 20h45 donner un premier rapport de force basé cette fois-ci non pas sur un sondage mais sur des bulletins dépouillés.
Oui, c'est ça, avec quelques autres points chauds en fait, hein, comme ça. On sait qu'il y a quelques ministres qui sont menacés, hein, Thierry Guerrier.
Oui, Clément Beaune par exemple, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires Européennes, et puis Guérini aussi sur Paris, qui est le patron d'En Marche du parti.
Oui, ou Castaner aussi, l'un des ténors de la majorité du côté de Fort-Calquier. Bien sûr, les dernières projections d'une façon générale, Frédéric Déby, donne toujours tout de même une majorité pour l'actuelle majorité présidentielle.
Oui, tout à fait. Notre dernière projection IFOP fiduciale pour Sud Radio et LCI donnait 265 à 300 sièges pour la majorité présidentielle. Alors, République En Marche, Modem, Horizon, rappelons qu'en 2017, En Marche, à lui tout seul, avait eu 351 sièges, ça en dit long sur le recul, la décélération, mais c'est vrai que cette projection, on la regarde, elle montre qu'il y a un risque pour la majorité très sérieux que cette majorité soit relative, comme en 1988, quand il y avait manqué 13 sièges à la majorité socialiste de François Mitterrand et Michel Rocard. Quand on connaît l'activisme et le dynamisme du groupe LFI qu'on a vu entre 2017 et 2022, si on passe de 17 députés LFI à 100 par exemple, parce que ce sera le groupe le plus important de la NUPES, ça promet des joutes parlementaires extrêmement, extrêmement fortes. En tout cas, aujourd'hui, on voit que l'effet de souffle présidentiel, ce qui a présidé aux législatives de 2002, 2007, 2012, 2017, ne se produit pas complètement. Il y a vraiment un enjeu de mobilisation de l'électorat en général et celui de la majorité en particulier.
Oui, Philippe Bilger, dans votre édito ce matin, vous posez en fait une question. Vous demandez d'ailleurs si on n'a pas enterré un tout petit peu trop vite, justement, Emmanuel Macron et sa possible majorité absolue. Hein.
Je trouve en effet, bonjour Patrick, bonjour Cécile, bonjour à tous.
Bonjour.
Il est évident que, et Frédéric vient de le confirmer, depuis les résultats du premier tour, il me semble qu'on va un peu vite en besogne et qu'au fond, on considère, malgré la partie haute des évaluations concernant Renaissance, que la majorité relative pour le président est quasiment acquise et qu'il n'aura pas la majorité absolue. Il me semble que c'est allé vite en besogne parce que on considère un peu rapidement qu'il a perdu la main, alors qu'on ne sait pas du tout comment l'électeur percevra les péripéties étrangères, notamment le voyage en Ukraine. On ne sait pas du tout comment la campagne dure, l'affrontement sévère entre la NUP et Renaissance sera appréhendé. Donc, je me demande si les partis ne prennent pas leurs désirs pour des réalités, que ce soit aussi bien le Rassemblement National que la NUP et les Républicains, et qu'en définitive, Renaissance n'est peut-être pas complètement perdue sur le plan de la majorité absolue. En tout cas, il faut attendre. Et le résultat l'estimation qui vient d'être donnée entre Amélie de Montchalin et Jérôme Guebe, je le montre, alors qu'elle était largement distancée au premier tour, elle est très proche de lui, apparemment au second.
Oui, c'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose, Thierry Guerrier?
Oui, alors ça, pour relativiser ce que dit Philippe sur un point, c'est-à-dire que, paradoxalement, c'est aussi le fait que la majorité présidentielle a fait une mauvaise campagne pour ces législatives, et elle n'est pas bien meilleure, sauf peut-être alors l'épisode ukrainien, en effet, de la part du président de la République. Regardez, la Première ministre n'a fait aucun déplacement, alors qu'elle est, en théorie, le chef de la majorité, la chef de la majorité. Aucun déplacement pour soutenir un seul des candidats LREM, Renaissance, où que ce soit en France, à part sa propre circonscription dans le Calvados. Ouais. C'est une réalité. Celui qui finalement est le chef, a été le porte-parole le plus emblématique de cette majorité présidentielle sortante, c'est Gabriel Attal, qui est sur tous les plateaux, qui monte sur tous les créneaux, qui fait des déplacements. Globalement, il a fallu que le président monte au créneau vers la fin, à nouveau, avec une forme de campagne assez honteuse, en fait, de la part de Renaissance.
Oui. Du suspense, quoi qu'il en soit, pour dimanche soir, quand même, hein, Frédéric, non ?
Oui, alors, je ne sais pas si le terme suspense s'applique à de la politique, mais vous avez raison.
Si. Ouais, ouais.
Alors, il y a quand même, ça a été dit par Philippe, et je suis comme souvent d'accord avec lui.
Toujours d'accord avec Philippe Bilger.
Moi, je suis souvent d'accord avec Frédéric.
Ça tombe bien, voilà.
Bon.
Les germes de l'amitié. Non, mais c'est vrai que la NUPES, dans les projections les plus hautes, ne dépasse pas 200-210 sièges, ce qui est, je le répète, très important. Rappelons le point de départ des législatives de 2017, de cette Assemblée, c'est une gauche à 60-65 députés. Ça en dit long sur le coup qu'a réussi la NUPES en termes d'union de la gauche, le récit qu'elle a imposé pendant cette campagne.
Mélenchon.
Et Mélenchon, qui, à partir de cette phrase stupide institutionnellement, « Élisez-moi Premier ministre », a réussi. C'est une phrase qui a entraîné un coup de maître politique. En tout cas, moi, qu'en gros, oublions, Patrick, les sondages, c'est parfois du bien. Quand on regarde, et j'ai épluché toutes les circonscriptions, nous avons dans un nombre élevé de circonscriptions, le rapport de force entre le premier et le deuxième, parce qu'on n'a quasiment que des duels, extrêmement serré. Parfois, c'est une égalité, parfois, c'est un demi-point. Donc, ça veut dire que, bien sûr, on peut faire des calculs arithmétiques, tel ou tel candidat éliminé va se reporter. La politique, l'électoral, c'est pas de l'arithmétique, c'est une dynamique, et il y a beaucoup de choses, soyons modestes, qui nous échappent.
Oui, c'est vrai. Et puis bon, et notamment participation ou abstention, bien sûr, qui sera un élément...
C'est le premier chiffre qu'on donnera à Sud Radio avec mon ami Romain Ben-David dimanche.
Oui, absolument, et qui est un élément clé. On verra si on est en dessous des 50%
ou pas. Et s'il y a des orages ou pas
c'est vrai. Un mot, Cécile.
Oui, un mot sur ces législatives. Est-ce que vous irez voter au second tour? Pour l'instant, vous dites... oui à 59%, 43 d'hommes le dit. Choix entre le marché de dupes des NUP et la renaissance de la Macronie, le prétentieux guignol de l'Élysée. Pourquoi pas les RN? J'irai voter, mais enveloppe vible. Davos contre Davos. Enfin voilà, c'est quand même assez. C'est le choc des NUP et de la renaissance.
Vous pouvez nous appeler, réagir 0826-300-300. Est-ce que vous irez voter dimanche prochain? Est-ce que vous avez déjà effectué votre choix? Vous pouvez parler. Que pensez-vous aussi de ce voyage d'Emmanuel Macron en Ukraine ? Opportuniste ou pas ? Nous en débattrons avec Thierry Guerrier, Philippe Bilger tout à l'heure aux environs de 9h15. Nous allons poursuivre et puis vos appels. Dans un instant, on va parler Ruby. Ruby, comme dit Daniel Herrero. Eh oui, forcément. nous serons avec l'affiche Toulouse-Castres, la première demi-finale.
À tout
ce
suite.
Soir.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h04, ce soir se joue à Nice la demi-finale du Top 14 et on en parle avec le président.
Oui, on va en parler effectivement dans un instant. On va parler aussi, j'aimerais bien que vous réagissiez sur toute l'actualité ce matin, de ce voyage d'Emmanuel Macron en Ukraine. Est-ce que c'était opportuniste ou pas? Thierry Guerrier, Philippe Bilger sont là avec nous pour en parler dans les questions du jour. C'est une question d'ailleurs qu'on met sur les réseaux sociaux. On reviendra aussi sur évidemment le dernier jour de campagne des législatives avec, quoi qu'on en dise quand même, encore évidemment du suspense. Est-ce que la majorité présidentielle gardera ou conservera sa majorité? Est-ce qu'elle sera absolue, relative, bien sûr? Est-ce qu'il va y avoir des surprises ou pas? Quelle sera la mobilisation? Tout ça en plus en pleine canicule, bien sûr, où il y a des gens qui vont partir en fait à la campagne, etc. Ou alors certains à la plage et qui n'iront peut-être pas voter. C'est ce qui s'est déjà produit la semaine prochaine. Et aussi tout à l'heure à 9h30, des économistes qui répondent aux populistes. Alors c'est particulièrement intéressant, un livre d'économistes sur l'ensemble en fait des mesures qui sont proposées aujourd'hui ou depuis quelques mois. Et ils répondent sur quelques solutions, sachant évidemment qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est ça qui ressort quand même aussi de ce livre, mais c'est assez intéressant, nous le verrons. Allez, on parle justement, tiens, on se met dans l'ambiance en fait du rugby. Hein. Dans l'ambiance du rugby.
Dans l'ambiance, oui.
Pour Antoine Dupont à un boulevard. Il accélère comme un diable. Il fait 70 mètres. Il arrive sur Dudaigne, c'est-à-dire l'arrière de La Rochelle. Il tape petit par-dessus. Le rebond lui est favorable. Il récupère la balle à 10 mètres de la ligne. Il fait un dernier coup de règne et il est plaqué à 2 mètres de la ligne. Le ballon sort vite.
Et voilà, vous l'avez reconnu, c'est Daniel Herrero,
oui,
évidemment.
Absolument, puisque ce soir, vous savez, c'est les demi-finales du Top 14. Castres face à Toulouse. Et
la première demi-finale.
La première demi-finale, puisque la deuxième sera demain à Bordeaux contre Montpellier. Oui. Et les présidents seront là. Pierre Yves Revol est avec nous, président de Castres Olympique. Et
Didier Lacroix
aussi, est avec nous,
nous
du stade toulousain.
Du stade toulousain. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pierre-Yves Revol, évidemment, merci d'être sur Sud Radio, que vous connaissez bien aussi ce matin, hein, Pierre-Yves Revol.
Un petit peu, oui.
Voilà, un petit peu, beaucoup. Alors, cette demi-finale, comment elle se présente du côté de Castres?
Donc comme toutes les rencontres importantes, elles sont abordées avec avec beaucoup de à ce stade de la journée avec un début de concentration.
Début de concentration, oui. Mais vous avez terminé premier du championnat. Est-ce que vous êtes dans la peau d'une équipe favorite face au Stade Toulousain qu'on ne présente plus aussi?
Non, pas du tout. Non. Vous savez, je considère même pas qu'on a terminé premier, parce que si le Stade Toulousain de mon ami Didier Lacroix n'avait pas vu son match reporté contre le Stade Français pour des raisons de Covid, et parce qu'ils auraient gagné très largement à ce moment-là, il serait premier à notre place. Donc, pour moi, elle est très virtuelle, cette place de premier. Je pense que dans ma tête, c'est ça, Toulousain qui est premier, quoi.
Oui. Bah. Didier Lacroix, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Yves Revol? Bonjour d'abord, Didier.
Bonjour, je crois surtout qu'on va se régaler pour jouer une demi-finale les uns contre les autres, ce qui nous a amené à passer par les barrages ou ne pas passer par les barrages. Le statut de favori, c'est souvent un jeu dont on se délecte dans les médias, mais nous, sur le terrain, ça n'a pas changé grand-chose. On sait qu'une demi-finale, c'est une chance sur deux et qu'il faut se livrer dans la bataille avec le plus de cœur possible.
Oui, c'est ça. Alors, le Stade Toulousain, c'est quand même effectivement une machine avec aussi des stars. On a entendu Daniel Herrero la s'extasier l'autre jour sur cet essai incroyable de Dupont contre La Rochelle. En face, Pierre-Yves Revol, est-ce qu'à Castres, c'est une équipe soudée avec une forme d'humilité, mais on est toujours, même si à Toulouse, on respecte aussi les valeurs du rugby, mais c'est du rugby plus traditionnel?
Oui, je ne sais pas ce qu'on entend par traditionnel, mais en tout cas, c'est un rugby différent. Ce sont deux modèles de clubs très différents, celui d'une grande capitale, et on connaît toutes les qualités du Stade Toulousain sur le plan sportif, avec un effectif constellé de joueurs internationaux, français, étrangers. Bon, c'est une approche différente. Nous, on a on essaie d'avoir un collectif performant, mais constitué principalement de joueurs que nous prenons et qui sont probablement des joueurs beaucoup moins formés encore ou beaucoup moins performants au stade, au moment où ils arrivent en club. Et puis on essaie de les développer, pour ça on essaie de les repérer au préalable. Ce sont des modèles, des clubs totalement différents, mais bon voilà, et qui se respectent, hein, je crois qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Oui. Et qui, comme le disait Didier, bon, ce que nous avons à. Ce que nous éprouvons aujourd'hui, c'est surtout le plaisir d'aborder un match décisif.
Oui.
Dans une ville qui nous accueille, qui accueille les deux demi-finales, qui va accueillir les publics des quatre demi-finalistes. Vous voyez, alors qu'on sort d'une période où on a vu beaucoup de problèmes sur certains terrains de football.
Ouais.
Voilà, ce qu'on apprécie surtout à ce moment de la saison, c'est bon, voilà, on a fait le plus dur, on s'est qualifié, et puis on aborde des rencontres décisives dans un contexte très festif, et ce sont des moments très riches pour les joueurs, et puis pour les dirigeants, et pour tous nos supporters qui nous suivent. Donc on essaie d'en profiter au maximum. Voilà.
Ouais. Question avec Cécile.
Oui, mais pour ceux qui connaissent un petit peu moins le rugby, on sait que c'est une échéance particulière. Didier Lacroix, comment on se prépare justement? Est-ce qu'il y a une préparation particulière?
Pour une demi-finale.
Pour une demi-finale, oui, peut-être.
Bien sûr qu'il y a pour les matchs phase finale en règle générale une préparation particulière, puisque d'abord il y a la montée en puissance de la semaine, la composition des équipes. Vous savez que le rugby le sport est une usine à frustration hebdomadaire, puisqu'on remet en cause l'ensemble de l'organigramme pour en choisir 15, puis 24, puis 30, puisqu'il y a trois étapes de joueurs concernés. C'est également la préparation pour tout un club, Pierre-Yves, à qui on doit, et je l'en remercie, cette joie des demi-finales, des deux demi-finales du top 14 jouées sur une même ville, ajoute un enthousiasme supplémentaire. On doit accompagner la venue de nos supporters, même s'il y a pour Castres et pour Toulouse, pour plein de raisons d'immédiateté, de problèmes de transport, on a eu du mal à amener notre public jusqu'à Nice, mais il y a tout ce contexte également dans la ville, les choses qui bougent, qui font que l'événement monte en intensité, pour des raisons sportives bien entendu, mais également pour des raisons sociétales tout autour.
Oui, bien sûr, et puis c'est un véritable derby, hein, Pierre-Yves Revol. Donc c'est quand même, c'est la petite ville entre guillemets face à la grande agglomération, et on a envie de jouer des mauvais tours à Toulouse quand on est à Castres. Non,
mais pas qu'à Toulouse, parce que Toulouse est sur notre route aujourd'hui. Il y a trois grandes métropoles, il y a Toulouse, il y a Bordeaux, il y a Montpellier, et puis chercher l'intrus, une petite sous-préfecture, là, bon, oui, elle est là pour nier les autres, c'est sûr.
C'est ça qui est super dans le rugby, quoi, aussi, bien sûr.
Ouais. Ouais. Mais vous êtes les présidents.
Je voulais vous dire, pardon de vous couper, mais c'est que Didier parlait du public, c'est vrai que hier soir, j'ai eu le préfet du Tarn m'a informé qu'il avait interdit la fan zone, la diffusion publique qui était prévue ce soir à Castres.
Oui.
C'était un moment très, très, très festif pour l'ensemble du public. Je crois qu'il y aurait eu des milliers, 10 000 sans doute, supporters qui se seraient rassemblés, mais en raison de la canicule, voilà.
On y pensait.
C'est vraiment dommage, parce que c'est un grand moment que s'apprêtait à partager la présentation.
Oui. Est-ce que, question à tous les deux, Didier Lacroix et Pierre-Yves Revol, la chaleur ce soir, ça peut jouer justement aussi un peu, parce qu'on annonce 30-32 degrés au moment de jouer encore, aux environs de 21h. Didier Lacroix.
Un peu moins, je pense.
Un peu moins.
On a peut-être la chance d'être à Nice et d'avoir quelques entrées maritimes, donc ça va tempérer un petit peu les choses. On sait que ces matchs du mois de juin sont un peu plus difficiles compte tenu des températures. Les joueurs, on essaye de les faire s'entraîner justement dans des températures assez hautes pour se préparer à ce type de match, une hydratation peut-être particulière. Mais écoutez, on sait que nos joueurs sont en préparation le plus optimal possible pour pouvoir se préparer à ça. C'est un aléa supplémentaire. Comment les équipes vont appréhender la température, mais ce sont des genres de choses que tout le monde appréhende et n'influence pas pour l'une ou l'autre des équipes, je pense.
Oui, Pierre-Yves Revol.
Oui.
Pierre-Yves Revol, sur cette chaleur, ça peut jouer, justement?
Oui, probablement. Si vous voulez, Oui, ça va probablement poser un gros problème au CO, un peu moins au Stade Toulousain, parce qu'on a des joueurs un peu plus lourds, un peu moins mobiles. Donc, vous voyez, je plaisante.
Ils ont pris du rap à la cantine.
C'est vrai qu'on dit que vous avez un jeu plus physique quoi, aussi à Castres. Quoi.
Bon, je ne pense pas. Ouais.
Non.
Je pense que les avants du Stade Toulousain sont redoutables.
Ils sont très courtois entre eux, c'est génial.
Et probablement plus impressionnants que les autres. Mais bon. J'allais dire que ici, le climat est un peu plus tempéré, Didier disait, et je crois que ce sera quand même plus supportable que dans la région toulousaine.
En tout cas, bonne chance.
Comme le disait Daniel Herrero, il y aura une mi-temps dans chaque mi-temps avec des stocks d'eau qui seront effectivement distribués pour permettre de s'arrêter de s'hydrater un petit peu évidemment pour les organismes. Merci en tout cas d'avoir commencé, c'était l'avant-match sur Sud Radio avec vous Didier Lacroix et vous Pierre-Yves Revol, les deux présidents. Merci, bon match
et merci, bon match à tout le monde et que les spectateurs se régalent surtout.
C'est
absolument
ça. Et les auditeurs de Sud Radio qui vont vibrer en écoutant aussi ce match, bien sûr, ce soir avec Daniel Herrero et François Triot. Merci à tous les deux et bonne chance.
Et restez avec nous, c'est la suite du Grand Matin dans un instant. Vos appels 0826 300 300. Tenez-vous, nous parler de rugby, peut-être de votre équipe préférée, vous pouvez, et bien sûr rebondir aussi sur l'actualité. On vous attend au standard, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h18, juste avant de retrouver Philippe Bilger et Thierry Garrier dans un instant. Et vos appels 0826-300-300, on va vous faire un petit cadeau, ça va vous faire du bien. On va vous offrir la montre Ice Watch, qui vous offre, là c'est la montre du moment, hein, il faut savoir, c'est l'Ice Solar Power qui puise uniquement l'énergie dans la lumière naturelle. Et ça tombe bien parce qu'il va faire du soleil aujourd'hui et artificiel aussi. Elle est éco-responsable, c'est la montre Ice Watch disponible dans tous vos bijoutiers.
On en offre quelques-unes.
On en offre deux.
Deux. Allez,
on en
tiens,
offre
c'est
deux.
Parti.
Voilà, deux belles montres Ice Watch.
Allez,
Ice
11e
Solar
et 13e
Power.
Appel. C'est parti.
À tout de suite et bon courage.
Oui, et vos appels justement aussi sur l'actualité. Et c'est Pierre qui est avec nous.
Du Tarn-et-Garonne. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Bon, Pierre, vous voulez réagir sur l'actualité, sur quel sujet, Pierre, ce matin?
Les législatives.
Oui.
Voilà. Moi, je dis qu'il faut, il faut que tout le monde aille voter. Il faut que il n'est pas possible de cette abstention qu'il y a. C'est pas normal. Il faut que les gens se prennent en main. Et après, si jamais ils ne vont pas voter, bon, après ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas rouspéter, comme l'on dit ici.
Autour de vous, il y a eu beaucoup d'abstention au premier tour.
Oui, il y en a eu. Moi, je suis sur Montech, et sur Montech, il y a eu pas mal d'abstention.
Ouais.
Et c'est le Rassemblement National qui est en tête.
Ouais.
Et dans le Tarn-et-Garonne, ils sont derrière la députée PS, je crois que c'est Valérie Rabault.
Elle est
en ballotage, contre le RN Pierre Poma.
Elle avait Valérie Rabault qui a été d'accord finalement pour l'accord avec la NUPES. Hein. Elle est sous l'étiquette de la NUPES, me semble-t-il.
C'est ça. Donc c'est
duel chez vous entre RN et la NUPES. Hein,
entre Valérie Rabault et Pierre Poma.
Ce que vous dites, c'est éliminé. Mais vous le dites, hein, il faut aller voter. C'est vrai aussi qu'il y a un différentiel là, qui est incontestable, on l'a vu au premier tour, entre les générations. C'est-à-dire que finalement, les générations qui ont l'habitude un peu plus des élections sont quand même globalement allées voter un peu plus. Et les jeunes ont déserté les bureaux de vote. 70% des moins de 34 ans. Comment Pierre, vous l'interprétez, ça?
Eh bien, écoutez, je pense que déjà les élections présidentielles, ça a été, a été un peu le foutoir, parce que même Macron, il n'a pas fait campagne. Je veux dire qu'il n'a pas présenté son programme, ou ça a été présenté à la va-vite. Et les législatives, c'est pareil. Et là, il s'est mis Le président s'est mis en avant avec l'Ukraine. Là, bon, c'est bien de participer à défendre l'Ukraine, hein, là, au contraire.
Ouais, ouais.
Mais après, voilà, il a un bilan catastrophique. Hein.
Mmh. Allez, vous trouvez son bilan en dehors de l'Ukraine, donc que le bilan est catastrophique pour vous.
Sur quel point il n'y a jamais eu plus de riches. Plus de riches depuis le Covid que...
Sur les très grandes fortunes, sur les très grandes fortunes notamment, oui.
Ouais, mais c'est pas ce que le petit peuple attend.
Ouais.
Et quand on voit, vous rendez compte qu'il va faire près de 40 degrés ici dans le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne, et croyez-vous qu'à 65 ans, un maçon pourra monter sur un échafaudage? Je pense pas.
Non. Sur les retraites, a priori pour les professions effectivement comme ça, qui pénibles, hein, avec des métiers dits pénibles, normalement le départ en retraite devrait être gardé, quoi qu'il en soit, un peu plus tôt, hein, Thierry Guerrier. Hein, ça fait partie de ce qui avait été annoncé quand même, quoi.
Oui, mais ça donne le sentiment que je défends cette réforme à 65 ans en répondant à votre question. Non, simplement, en effet, pour être honnête intellectuellement, il faut préciser que les porte-parole de la majorité ont bien expliqué qu'il n'était pas question dans le projet présidentiel d'une retraite à 65 ans quand on a ses 40 annuités, et surtout qu'on a fait partie de ceux qui ont appartenu à des professions difficiles comme le maçon en question.
Comme
question
Pierre, non, mais bien sûr, et pour monter sur des toitures. Et puis, il y a beaucoup d'autres métiers, parce que c'est vrai, souvent, on a tendance à caricaturer un petit peu avec les métiers du bâtiment, qui sont difficiles, mais les autres aussi, bien sûr. Mais dans le secteur...
Mais je comprends ce que dit Pierre, parce que il faut la garantie que ces métiers difficiles ne seront pas obligés de pousser jusqu'à 65.
C'est
une exigence qui n'était pas claire dans la façon de la présenter.
Oui.
Et l'erreur de la Macronie et d'Emmanuel Macron vient de là. C'est pas de campagne trop tard, campagne honteuse.
Parce qu'on l'avait dit pour la présidentielle et on le redit aussi pour les législatives. Philippe Bilger, cette absence de campagne et de débat de fond aussi, finalement, sur des grands sujets de société, et notamment régaliens, au moment où l'on dit que le pays est menacé sur ses fondements d'État régalien.
Absolument. Je vois dans le propos de Pierre quelque chose qui révèle paradoxalement l'état profond de la France, une sorte d'hostilité qu'on ne prend pas forcément en compte. Et le deuxième élément, il me semble que le président est toujours dans ce double mouvement contradictoire. Le premier est de traiter avec condescendance un petit peu, voire un zeste de mépris, les oppositions qui sont dressées contre lui. Et puis après, il précipite le mouvement en se mêlant très directement de la campagne. Alors là, il va revenir de l'Ukraine. On va en parler, je crois, Patrick, sur l'Ukraine, mais
Ce voyage en Ukraine cette semaine, de l'opportunisme ou pas? Philippe Bilger, parce que vous avez la parole, gardez la parole.
Alors moi, j'ai entendu hier dans Les Vraies Voix un ancien ambassadeur qui m'a convaincu d'une certaine manière. Il a indiqué que le président ne pouvait pas, à la fin de son mandat européen, ne pas aller une fois en Ukraine, d'autant plus que j'ai beaucoup apprécié l'initiative européenne. C'est comme si le président quittait un peu une posture solitaire à l'égard de l'Ukraine pour participer à un trio et qui est allé rendre hommage d'une certaine manière à Zelensky, et c'est ce qu'il a très bien expliqué hier, le président, de mon point de vue, sur TF1. En revanche, il a été moins convaincant en disant qu'il avait absolument besoin de la majorité absolue. Mais je pense qu'il a bien fait d'aller en Ukraine, même si ses adversaires, évidemment, peuvent considérer que c'est une pierre un peu déloyale dans le jardin des élections législatives.
Mais c'est un peu à double tranchant aussi, quoi qu'il en soit, non, Thierry Guerrier? Ça peut vous servir comme ça peut vous desservir aussi, non?
Écoutez, on peut toujours penser que ça tombe bien, et c'est sûr que ça tombe bien pour lui. Mais enfin, croire que ce voyage n'est que le fruit d'un calcul électoraliste, c'est un peu rapide. Philippe Bilger a bien raison de souligner que c'est d'abord le symbole de l'unité européenne, que le président à cet égard s'est posé en président de l'Union du Conseil européen, et que c'est à ce titre-là qu'il est allé en tête, en quelque sorte, du trio, et même du quartet, avec le président roumain, qui est voisin, de l'Ukraine et qu'ils ont porté ensemble ce symbole. Unité, soutien, mais attention, la France n'a pas changé de ligne, il l'a souligné, on ne l'a peut-être pas assez montré hier soir, mais il a maintenu à la fois le fait qu'il donnait des armes, hein, 18 canons au César, dont les 6 derniers vont être livrés, et puis la France en même temps dit, mais on continue à discuter avec Poutine. Et je pense que Philippe a raison, le président a eu raison d'y aller et passer 10 heures dans un train, organiser contrer les services secrets russes par question de sécurité et puis organiser les agendas de ces trois.
Tout le monde le savait, plus ou moins. Il allait en Moldavie, Roumanie, juste à côté, et donc
tout le monde le pressentait.
Les espions russes fourmillaient
sur le terrain. Tout de même, il fallait organiser ces trois agendas. Bon, donc le petit enjeu électoraux français passe après tout ça quand même.
Oui, Philippe Bilger.
Oui, encore une fois, je comprends les réactions des opposants. Ça arrive bien juste avant les législatives, mais comme vous l'avez dit,
Patrick, qu'il est chef de guerre, quoi. Hein, c'est l'image, quoi.
Ça peut être à double tranchant. Hein. Ouais. Est-ce que le fait de montrer à quel point il tient la barre à cause de la situation internationale va lui entraîner une adhésion supplémentaire et à son camp, ou est-ce que c'est pas le cas? On ne sait pas. Est-ce qu'il va être taxé d'opportunisme ou d'allure présidentielle? On ne sait pas.
Oui. Thierry Guerrier.
Rien n'est garanti en effet, et ça peut se retourner contre lui. Mais est-ce qu'il avait le choix? Je crois pas. Il fallait qu'avant la fin de la présidence de l'Union européenne,
il avait déjà le choix de garder. Ça, c'était le premier point. On en a beaucoup débattu auparavant. Est-ce que, alors qu'il y avait des élections effectivement en France, il devait garder la présidence de l'Union européenne?
Oui, mais
on va pas refaire le débat. C'est vrai qu'on l'avait déjà évoqué avant la présidentielle. Mais vous avez raison de souligner.
Je crois qu'il n'y avait pas le choix.
Bon.
Pas mal de messages sur les réseaux sociaux où on nous dit on devrait arrêter si on veut arrêter la guerre, il faut arrêter de fournir des armes. On en a déjà fait assez pour l'Ukraine. Beaucoup nous disent aussi il faut la paix, on arrête de fournir des armes. On est plutôt dans cette mouvance-là sur Facebook. Hein.
Oui, c'est vrai. Cette question de l'armement est complexe. D'autant que la France appartient à l'OTAN et qu'il y avait une logistique qui était fournie et qui est normalement fournie par l'OTAN.
C'est surtout que la France, après les Américains, des meilleurs canons au monde, pardon, mais c'est une arme, hein, civis pacem, parabellum. Quand on veut éviter la guerre, on se prépare et on a une industrie d'armement qui est efficace.
Merci à tous les deux, merci à vous aussi de nous avoir appelé 0826 300 300, et à Pierre qui était en ligne avec nous. Hein. Merci Pierre, protégez-vous, 40 degrés, ce qu'il disait, évidemment,
dans le Tarn et Garonne, du côté
de Montèche, un peu partout en France, ça va monter aussi vers le nord. Vous avez vu, même à Cherbourg, il va faire plus de 30 degrés. Alors ça, c'est quand même assez incroyable, quoi.
Dans un instant.
Canicule, le chalumeau, comme on l'a appelé. Hein, c'est comme une flamme, la plume, hein, ce phénomène que l'on vit actuellement, qui devrait perdurer jusqu'à, a priori, dimanche.
Cherbourg, c'est à côté de Marseille, c'est ça?
Cherbourg, c'est à bien sûr.
Bah maintenant, oui.
C'est dans la baie, c'est à côté de Cassis.
Voilà, juste à côté
Bien sûr.
Bien entendu.
Merci, mon cher Philippe Bilger. Vous serez dans les vraies voies ce soir, en forme ou pas?
Ah oui, en pleine forme, Patrick.
Bon, avec Philippe David, qui fera monter un petit peu la température aussi avant le match ce soir, première demi-finale. Toulouse, Castres, vous l'avez compris, c'est un événement qu'on va suivre, et bien sûr en direct sur Sud Radio avec toute la bande, Daniel Herrero, François Trio, et que le meilleur gagne, hein, qu'on se dise, quoi. Allez, dans un instant,
la vérité en face, on va revenir sur ce livre, sur des économistes qui répondent aux populistes. Et on déroulera les plans des différents candidats avec Françoise Benhamou, qui est économiste spécialiste de l'économie, de la culture, des médias, et vos appels 0826 300 300. À tout de suite.